From the roots up, CIUT 89.5 FM, Toronto.
There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million Francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the Francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popo Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popo Richaud, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.purri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter? Horte Marmelade. Mois de mars, mois de la francophonie sur CUT 89,5 FM Toronto, en partenariat avec Radio France Internationale et France 24. Le mois de la francophonie nous offre l'occasion de fêter la langue française dans toute sa diversité. Au menu, la valorisation des multiples projets réalisés dans le cadre de l'opération de sensibilisation à la langue française. Dis-moi 10 mots. Poésie, rencontres littéraires exceptionnelles, découvertes musicales, les rendez-vous à Toronto, au Canada et dans le monde, des cadeaux et des invités surprises. Pour nous joindre, popourri@cut.fm. Mois de mars, mois de la francophonie sur CUT 89,5 FM. Joignez-vous aux 10 millions de francophones au Canada. On vous y attend. Eh oui, Popourri Show et CUT FM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPCA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPCA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPCA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourrichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Des personnes d'origine africaine ont fait d'importantes contributions au développement de notre grand pays. Le 2e bataillon de construction a fièrement servi le Canada au cours de la Première Guerre mondiale. William Hall est devenu le premier marin canadien, le premier néo-écossais et le premier noir à recevoir la Croix de Victoria. Mary-Ann Shad Carey a été la première femme d'origine africaine à publier un journal en Amérique du Nord. Les Afro-Canadiens ont laissé leur marque dans la musique, dans les sports, et continue de contribuer à de nombreux aspects de la vie canadienne. Célébrons notre fier patrimoine. Célébrons le mois de l'histoire des Noirs.
Mois de février, mois de l'histoire des Noirs. Popourri Show, CUT FM. Au cœur de l'histoire. Il n'y a pas de futur sans présent et pas de présent sans passé. Et bienvenue, madame, monsieur, à cette édition spéciale dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Une présentation de Popourri Show, CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto. L'ingénieur du son DJ Devera. Production et animation, Éric Adair, à votre service depuis plus de 35 ans. Pour écouter nos émissions où que vous soyez dans le monde, une seule adresse, popourrichaud.com. Cette émission est réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, France 24, TV5 Monde, Sophie Franc, France Inter et plusieurs organismes communautaires francophones, créoles et africaines au Canada. Tout au long du mois de février, Potpourri Show vous a présenté les activités, les initiatives de ses partenaires, des organismes qui mettent en valeur des jeunes, des artistes, des hommes, des femmes d'action, des personnalités et des expériences qui ont façonné l'histoire des Noirs dans notre société. Cette émission de clôture se veut être une reconnaissance à nos partenaires et nos amis engagés, inspirants, qui nous ont soutenus une fois de plus dans cette aventure. Des organismes, des hommes, des femmes qui malheureusement ne sont pas toujours entendus dans la communauté francophone en Ontario, au Québec, au Canada. Les personnes noires vivent au Canada depuis les débuts de la colonisation transatlantique. Malgré toutes les lois anti-discrimination et certaines avancées dans certains secteurs, les 3 millions de Noirs au Canada doivent se battre encore chaque jour pour se tailler une place au soleil et surtout au sein de la francophonie. Il est dommage de constater que pour être reconnu par ses pairs, et d'ailleurs plusieurs études sont là pour le prouver, beaucoup de Noirs préfèrent créer leur propre entreprise pour réussir leur vie. Nous voyons de plus en plus la création d'organismes créés par et pour les Noirs. Par exemple, la compagnie Théâtre à Créole à Montréal, le Salon du livre afro-canadien et plusieurs maisons de production qui font la promotion des films et des artistes noirs. La question qu'on doit absolument se poser, est-ce normal, surtout en milieu minoritaire francophone? Comment faire pour briser cet engrenage de discrimination systémique dans presque toutes les sphères de la société canadienne? Y a-t-il pas danger de créer des cloisons entre les communautés ou des classes de personnes de différentes catégories? Émission de clôture du mois de l'histoire des Noirs. Quel bilan? C'est la question qu'on posera à nos invités. Nous aurons parmi nous Dr Amadou Ba, historien chargé de cours à l'université de Nipissing et l'université Laurentienne de Sudbury. Auteur de plusieurs livres retraçant la contribution des Noirs au Canada. Son dernier livre, Amazon des Neiges, ces grandes dames afrodescendantes qui ont marqué l'histoire du Canada, disponible sur amazon.ca. Fété Kimbiopi, directrice générale de Sophie France, Solidarité des femmes immigrantes francophones du Niagara. Notre partenaire, un organisme communautaire sans but lucratif reconnu par différents bailleurs de fonds comme étant un point de ralliement pour de nombreux nouveaux immigrants de Niagara et de Welland. Je vous rappelle que Sophie Franc nous a encore une fois émerveillés avec son festival Festive Eben. Haïti, première république noire au monde, mais connaissons-nous vraiment le patrimoine culturel haïtien? Nous recevrons Annick Chalifour, juriste de formation, chroniqueuse et journaliste au journal L'Express de Toronto. D'ailleurs, elle a réalisé plusieurs reportages en Haïti sur le tourisme solidaire en appui à l'économie locale durable. Et bien, on se déplacera à Montréal avec la 5e édition du Festival Théâtre à Communauté des Noirs, fêté comme Noir, du 26 février au 26 mars, et à Jacmel, en Haïti, du 26 février au 5 mars. Festival Théâtre à Communauté des Noirs est un projet de développement d'activités culturelles et artistiques qui s'inscrit dans la mouvance Théâtre Noir au Canada. La grande et la talentueuse comédienne et conteuse torontoise d'origine haïtienne, Jenny Laguerre, est l'invitée d'honneur cette année. Nous recevrons une porte-parole avant la fin de l'émission. Mais tout d'abord, nous avons l'immense plaisir de recevoir en direct l'artiste du mois de l'histoire des Noirs sur CUT-FM, Senaya, artiste née à Dakar, d'un père sénégalais et d'une mère guadeloupéenne. Compositrice, interprète et guitariste, sa voix chaleureuse, envoûtante et son incroyable charisme sur scène façonnent une incroyable musique qui fait du bien à l'âme et qui célèbre la vie. C'était le lancement de son album lors d'un concert jeudi dernier, jeudi 23 février. En voici le titre que vous avez pendre tout au long du mois. Allez voyez l'imier de Senaya, l'artiste du mois de Potpourri Show, CUT 89,5 FM.
Thank you. pas qu'à comprendre ça qui t'a passé. Ou qu'à chercher la paix tout de côté. Ou dit ni trop la guerre. Ou dit ni trop misère. Ou dit pourquoi un homme qu'a tué un homme. Ou dit ni la guerre ni misère. Ou dit ou chercher tout de côté. Ou empêcher la vie partie. Pour empêcher, moun tuer moun, fait tout ça ou paye. Mais les ovines mandent aux questions, anti-solution, ou dit ou pas savent. Aïe, 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 pas connaître, aïe, on pas savait, aïe, on peut pas dire, aïe. On peut pas faire rien, on pas connaître rien, rien, rien. On peut pas faire rien. Dis ou pas qu'à comprendre ça qui t'a passé. Ou qu'à chercher la paix pour côté.
Allez, voyez les miens, disponibles sur toutes les plateformes. Mais où est passée Senaya? Est-ce qu'elle est en Guadeloupe, en Martinique ou à Montréal? Eh oui, madame, monsieur, vous écoutez une édition spéciale, émission de clôture. Eh oui, le mois de noir se clôture aujourd'hui, mais pour nous, c'est à l'année longue qu'on célèbre les cultures noires et toute cette diversité. En direct sur CUT 89,5 FM, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde. 36 ans bientôt. Et merci à Ciné Franco et Marceline. Et oui, merci de nous avoir accompagnés, madame, monsieur, tout au long de ce mois de février. Et merci à notre artiste du mois, Senaya. Très belle chanson hein, que nous avons entendue sur Guadeloupe Première, s'il vous plaît. Je rappelle aux auditeurs que vous demeurez à Montréal et le mois de février est peut-être assez catastrophique, car l'hiver peut être très rigoureux. N'est-ce pas, Wiltrud from Germany, qui nous écoute en ce moment? Merci pour vos messages et les belles photos. Bonjour, Senaya, où êtes-vous?
Je suis à Montréal.
Et pas à Guadeloupe, parce que moi je vous ai entendu sur Guadeloupe Première.
Oui, tout à fait. J'ai fait un séjour trop court, bien sûr, toujours trop court. Un court séjour en Guadeloupe et j'en ai profité... pour faire la promotion en fait de ce single que vous avez mis, la chanson Ali Voyer Lumière.
Ben vous savez, donc, cette chanson a été jouée tout au long du mois.
Oui, je sais, effectivement, c'est vraiment
c'est
un plaisir, un honneur.
C'est la première fois qu'on offre l'antenne pendant tout le mois le mois de février à une artiste comme vous. On vous a fait vraiment honneur. C'est un honneur aussi pour nous, hein, parce que quand même. Vous êtes une femme à multiples talents, multiples origines, vous êtes très créatrice. D'ailleurs, l'émission que nous avons bien appréciée sur Guadeloupe Première, c'est là qu'on vous découvre. Mais par contre, ici, dans les médias, les Noirs en général, francophones, sont presque absents et on ne vous a pas tellement entendu. Je ne sais pas si j'ai bonne mémoire. Est-ce que ce nouvel album a eu un effet très positif dans les médias francophones en général au Québec?
Ben, écoutez, déjà, on va commencer par dire que l'album est sorti il n'y a pas longtemps. Hein. Tout l'album, c'est 9 chansons. L'album est sorti sur les plateformes digitales vendredi, le 24. C'est sûr qu'il y a des entrevues qui sont de façon médiatique, on va dire. Il y a des entrevues qui sont tranquillement en train de rentrer. Il y en a que j'ai déjà faites, notamment à la presse, etc. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est timide. Mais ça vient de commencer aussi toute la promotion.
Écoutez, vous êtes très gentil. Moi, ça fait bientôt 45 ans, Senaya, que je suis ici. On gueule. Nous sommes la première et la seule émission en langue française, je pense, à diffuser la diversité de la francophonie torontoise, québécoise, mondiale. Comment se fait-il les gens, les médias qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir, qui ont toutes les facilités du monde pour faire avancer la cause de la francophonie dans sa diversité, 45 ans après, on n'arrive toujours pas à trouver de la place pour célébrer la diversité de la francophonie, des artistes francophones de... Non, moi je suis très fâché. Hein.
Bon, c'est un combat, oui, c'est un combat effectivement... On a beaucoup de difficultés, effectivement. Mais ça dépend. Vous battez, vous, pour la francophonie, c'est ça, en fait. Vous partez pour la diversité de la francophonie, si je comprends bien. C'est cela?
Ben, vous ne me connaissez pas, hein. Il faut me suivre. Vous savez, quand on dit francophonie, il y a aussi les créolophones.
Oui.
Il y a aussi tous ces allophones, tous ces francophiles, parce que de plus en plus, on remarque qu'il y a beaucoup d'anglophones qui épousent la langue française. Ne me demandez pas pourquoi, mais ils adorent les chansons francophones, les chansons créoles, et on n'a qu'à voir les réactions très positives à des gens, pas seulement du Canada, mais aussi, vous savez, nous sommes sur le net, donc il y a des gens de l'Australie, par exemple, qui nous appellent, de l'île Maurice, de l'île de la Réunion, tous ces endroits dont on ne parle jamais. Mais au Canada. Il faut dire que vous avez quand même un organisme qui vous parraine. C'est le mois de l'histoire créole. Le mois du créole,
oui.
À Montréal.
Oui, à Montréal, tout à fait. Et je salue Monsieur Rolandin, d'ailleurs Pierre Rolandin.
Oui, d'ailleurs, qui nous a reconnus en nous donnant 2 trophées l'année dernière.
Oui, c'est ce que j'ai su. félicitations, d'ailleurs. C'est bien mérité.
Parce que
la collaboration est très belle. Et puis, vous-même, en fait, vous faites un travail, un excellent travail, effectivement.
Mais à 90 ans, vous savez, il faut la relève, quand même.
Oui, tout à fait, oui, tout à fait.
Alors...
Je pense que ça viendra, de cette manière.
Alors, cet album, c'était très important pour vous parce que c'était un moment de silence. Hein. Bon, il y a eu Covid, tout ça. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à lancer cet album? Et surtout cette chanson, hein, on voit sur la vidéo qui est très, très bien réalisée. Est-ce que vous avez eu du soutien financier? Parlez-nous un petit peu rapidement de...
Oui, alors donc bon, alors rapidement, donc l'album en lui-même, donc tout l'album, c'est 9 chansons déjà, on va commencer par là. La première chanson, c'est celle effectivement sur l'album, elle apparaît comme la première aussi, c'est celle que vous avez mis, qui est le premier single qui est sorti, donc « Allez, vous les liens ». Et ça a été financé par Factor Canada.
Et alors, la traduction pour nos amis franco-ontariens qui nous écoutent en ce moment, « Voyez les liens ».
Oui, j'y arrive. Alors là, le truc, c'est quoi? C'est que Factor Canada donc a financé une partie de l'album, ce qui m'a permis de faire justement cette magnifique vidéo que vous avez vue.
Super.
Et j'ai pu aller tourner en Guadeloupe, en fait.
Oui.
Et aller veut dire va, et voyez lumière veut dire envoie de la lumière, en fait.
Oui. On voit chez vous quand même, vous savez, quand j'étais jeune, je chantais dans une chorale et j'étais aussi maestro à un moment donné dans une église. Et pour moi, le Negro Spiritual a une résonance. Et chez vous, on sent qu'il y a cet amour du Negro spiritual, parce que il faut dire que vous avez ce mélange du Sénégal, de la Guadeloupe, maintenant au Québec. C'est ça qui vous fait vibrer, vivre un peu et surpasser peut-être les problèmes, parce que le Negro spiritual, pour moi, à l'époque, c'était une chanson de liberté, freedom. Et ça m'a fait traverser les montagnes et les difficultés de la vie, de la jeunesse à l'époque. Est-ce que le Negro spiritual est tout ce que vous faites en ce moment, c'est la chanson finalement qui vous aide à surpasser les problèmes?
Oui, tout à fait, parce que d'ailleurs j'ai une chanson qui s'appelle « I pray time is coming », qui est en anglais, donc comme vous l'entendez, et qui est vraiment ancrée encore plus dans le spiritual. Et pour moi, le spiritual, c'est quelque chose qui fait référence à ma foi, tout simplement, et donc automatiquement, et je dis dans cette chanson que quand je chante, je prie, et quand je prie, je chante.
Et les Noirs, donc, les Noirs dans certains pays, que ce soit en Haïti, en Afrique du Sud, à l'île Maurice, et tous les esclaves, chantaient.
Oui. Pour... Oui, c'est-à-dire que c'est des comment dirais-je, c'est
des lamentations, c'est des... mais aussi des révoltes.
C'est des chants spirituels, c'est des façons, c'est une façon pour pouvoir... résister, en fait, parce qu'il fallait résister, il fallait avoir le mental pour tout ce que les Noirs ont... Vous savez, les Noirs ont énormément souffert. Donc, et ça, c'est quelque chose que l'on ne dit pas assez dans le mois de l'histoire des Noirs, justement. Et je veux bien qu'on parle de tout ce qui est gay et tout ça, magnifique et tout, mais je pense qu'il est important de comprendre à quel point les peuples noirs, dans leur ensemble, ont énormément souffert. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire.
Et ils en souffrent encore aujourd'hui.
Ils souffrent encore, oui. Ça c'est sûr. Ça, on le sait plus que jamais, ils souffrent encore. Il est très important, justement de le dire, de comprendre que c'est une souffrance qui n'arrête pas, qui est sans fin, et qui dure depuis l'esclavage, qui dure depuis la colonisation, etc., etc. Et donc... toutes ces musiques qu'on dit musique noire, et toutes les musiques finalement populaires, j'ai envie de dire, le rock, le jazz, le blues, le spirituals, toutes les musiques aussi des Caraïbes, etc., le zouk, etc., tout ce que vous pouvez imaginer vient de cette souffrance-là.
Exactement.
Ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas dénaturer les choses.
Freedom. Ah, j'ai envie de chanter avec vous un jour. Est-ce que vous allez passer nous rendre visite un jour à Toronto, peut-être en été, hein? Oui, c'est dans vos plans.
Mais si vous m'invitez, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Si vous organisez quelque chose, justement, avec... le centre, je pense qu'il y a un centre francophone, hein,
mais,
Toronto.
Mais il y a d'autres, voilà. Il y a d'autres organismes aussi, tels que FCASO, vous savez, le Festival Compazouk de l'Ontario, qui est très, très coté ici, qui organise des spectacles magnifiques chaque été. Alors, je vais passer le petit mot à la fondatrice Janine Maillard, qui nous écoute en
avec
ce moment.
Avec grand plaisir, avec grand d'ailleurs, plaisir. On recherche des contrats.
Oui,
donc,
d'ailleurs, FCASO, madame, monsieur, en toute primeur, là, je vous lance... primeur, c'est l'FCASO aura une version africaine au mois d'août.
Ah, et bien voilà, alors, c'est le moment de nous inviter. On est là.
Alors, parce que les Africains, ils ont déjà découvert le zouk, bon, Kassavi est allé dans les années 70-80, tout ça,
ben oui,
mais
bien sûr.
Ils veulent garder ce rythme avec le zouk, et FCASO, c'est l'organisme par excellence qui fait la promotion du zouk, pas seulement au Canada, madame, monsieur, mais à l'international, en exclusivité. Nous recevrons bientôt Janine Maillard, la fondatrice.
Eh bien, ça tombe bien, parce que sur l'album qui est sorti, là, mon album, en fait, Soul Créole volume 1, Route Racine, il y a du zouk.
Ouais. Alors, nous sommes très fiers, chère Senaya, d'être partenaire de votre album, mais aussi de vos préoccupations, des enjeux que vous vivez, mais aussi nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes comme une équipe très solide. C'est comme ça qu'on considère nos partenaires. Vous savez, nous avons des partenaires depuis 36 ans à cette émission, à cette radio, et ce sont des partenaires fidèles au poste.
Ah, c'est ce qu'il faut, hein. Il faut, parce que sinon, en tant que radio, en tant que... indépendant, en fait. Hein.
Ouais.
On a besoin de soutien, on a besoin de mécènes, on a besoin de partenaires, on a besoin de sponsors, on a besoin de gens qui sont là et qui croient, et des auditeurs, bien sûr.
Et d'ailleurs, les gens peuvent vous suivre. Si vous allez sur notre site madamemonsieurpopourrichaud.com, vous allez voir la photo de Senaya et aussi tous les liens menant à son site web qui est très, très bien fait. Cet album est disponible sur Spotify, Deezer, YouTube, toutes les plateformes. Alors, donc, allez-y. J'espère que vous aurez la chance, comme je l'ai dit, de nous rendre visite un jour.
Et avec grand plaisir, franchement, avec grand plaisir.
Une artiste empreinte de R&B, d'une touche antillaise et d'une intention pop, la musicienne a développé au fil du temps une approche qui intègre aussi le jazz, le funk, le blues, le negro spiritual. Mille merci, chère Senaya, et que la force soit avec vous. Bon mois de l'histoire des Noirs et bravo!
Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous. Et puis à très bientôt, j'espère, sur les ondes.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao. Au revoir.
Mois de mars, mois de la francophonie sur CUT 89,5 FM Toronto, en partenariat avec Radio France Internationale et France 24. Le mois de la francophonie nous offre l'occasion de fêter la langue française dans toute sa diversité. Au menu, la valorisation des multiples projets réalisés dans le cadre de l'opération de sensibilisation à la langue française. Dis-moi 10 mots. Poésie, rencontres littéraires exceptionnelles, découvertes musicales, les rendez-vous à Toronto, au Canada et dans le monde, des cadeaux et des invités surprises. Pour nous joindre, popourri@cut.fm. Mois de mars, mois de la francophonie sur CUT 89,5 FM. Joignez-vous aux 10 millions de francophones au Canada. On vous y attend.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Dans le cadre du mois de la francophonie, Popourri Show vous convie à des rendez-vous inédits grâce à ses nombreux partenaires au Canada et à l'étranger. Cette année, Ciné Franco vous en met plein la vue. Tout au long du mois de mars, avec le meilleur du cinéma francophone durant le mois de la francophonie à Toronto. Préparez-vous à rire, à pleurer, à vous amuser et à être inspiré. Dès le 1er mars, l'école est à vous avec Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale qui profite d'une grève générale dans un collège pour tenter une expérience hors du commun. Une étincelle qui va enflammer les esprits des ados, provoquer une petite révolution au sein du collège et bouleverser leur vie à tous. Du 2 au 6 mars, Néné Superstar, une petite fille noire de 12 ans qui rêve de rentrer à l'école de ballet de l'Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler d'efforts pour y arriver. Le 3 mars, La Brigade, une comédie de Louis-Julien Petit. Un film riche d'un propos sensible sur les réfugiés et illustre encore une fois la palette comique et dramatique de l'étonnante Audrey Blamy. Et enfin, découvrez les films disponibles en ligne sur Eventbrite pour toute la famille dans le cadre des vacances scolaires. Rosie de Gail Morris est un film bilingue, autochtone et queer, révolutionnaire. Tori et Lokita des frères Darden, qui touche en plein cœur l'actualité brûlante des jeunes migrants en Belgique confrontés au réseau de l'économie souterraine. Un film âpre et émouvant. Et enfin, les nouvelles aventures du légendaire Gulliver, qui reçoit une lettre de ses amis lui demandant de revenir sur Lilliput. Un film d'aventure à faire rêver vos jeunes. Découvrez le meilleur du cinéma français, du cinéma francophone, en salle ou en ligne sur cinéfranco.com. Bon cinéma!
France 24 vous propose Les Observateurs. Un regard unique sur l'actualité, le vôtre. Des photos, des vidéos, des témoignages de nos observateurs au cœur des événements. Vérifié par les journalistes de France 24 et publié sur notre site. Les Observateurs, c'est aussi une émission où interviennent nos observateurs par webcam pour vous offrir un autre regard sur l'info. Les Observateurs, un réseau participatif et interactif de 5000 citoyens du monde. Les Observateurs, ce sont eux, c'est lui, c'est elle, et pourquoi pas vous? Rejoignez-nous sur observateur.france24.com et devenez acteur de l'information. Vous aussi, soyez nos yeux aux quatre coins du monde.
Émission de clôture du mois de l'histoire des Noirs. Popourri Show, CUT 89,5 FM, au cœur de l'histoire. Il n'y a pas de futur sans présent et pas de présent sans passé. Une présentation de Popourri Show, CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Cette expression française se définit dans son sens propre par le fait qu'il vaut mieux faire les choses soi-même qu'attendre que quelqu'un d'autre les fasse pour nous. Pour cela, il faudrait compter sur ses propres forces. Cette expression colle bien à la peau de mon prochain invité, originaire du Sénégal, titulaire d'un doctorat en histoire, d'une maîtrise en sciences politiques et d'un baccalauréat en enseignement. Il enseigne à l'École des sciences de l'éducation et au département de sciences politiques à l'Université Laurentienne à Sudbury, Ontario, et enseigne aussi l'histoire de l'Afrique à Nipissing University, North York, en Ontario. Il est auteur de plusieurs livres, dont « L'Afrique des grands empires », 7e au 17e siècle, 1000 ans de prospérité économique, d'unité politique, de cohésion sociale et de rayonnement culturel aux éditions AB en 2020. L'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada, 1604-1945, apparu aux éditions Africana, Montréal, en octobre 2019. Les militaires ouest-africains dans la conquête de la colonisation de Madagascar 1895 à 1960 aux éditions Harmattan Études africaines en 2012 et son tout dernier livre qui comble un très grand vide historique au Canada, Amazone des neiges, ces grandes dames afrodescendantes qui ont marqué l'histoire du Canada 1725 à 1982 aux éditions AB. Parmi les sujets qui le passionnent, l'immigration francophone et ses enjeux au Canada, sujets et thèmes relatifs à la diversité, l'équité et l'inclusion. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Mesdames, messieurs, c'est tout un plaisir pour moi d'accueillir docteur, professeur et historien Amadou Ba.
Et oui, madame, monsieur, professeur Amadou Ba, qui est en direct actuellement à Terre de Livres, le salon du livre de l'Outaouais. Et je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais cela nous fait énormément plaisir. Docteur Amadou Ba, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à vos auditeurs. Bonjour, Eric. Donc, je vous parle exactement du Salon du Livre de l'Outaouais à Gatineau.
Oui.
Et c'est un plaisir de vous retrouver.
Alors, vous allez être notre reporter sans frontières en direct. Quelle est l'ambiance du salon qui se termine aujourd'hui, je pense?
Oui, un salon très, 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 très populaire. Beaucoup, beaucoup de monde. Vraiment, magnifique Salon du Livre.
Oui.
Qui finit aujourd'hui, qui a commencé depuis le 23, oui.
Est-ce qu'il y a des maisons d'édition seulement canadiennes ou il y a aussi des journalistes et des maisons d'édition étrangers qui s'y intéressent à ce salon de l'Outaouais?
Il me semble qu'il y a des maisons d'édition étrangères. Je n'ai pas visité tout le salon, c'est trop grand, mais des gens qui viennent de la France particulièrement, oui.
Oui. Il faut faire beaucoup d'efforts, je pense, pour promouvoir ces littératures canadiennes et surtout franco-ontariennes, québécoises à l'étranger, parce que les gens méconnaissent encore l'histoire, ça veut dire tous les talents, les écrivains qui existent au Canada francophone, n'est-ce pas?
Oui, absolument, absolument. Donc, mais de plus en plus, que ce soit le Salon des livres de l'Outaouais, celui de Montréal, on voit un intérêt particulier des gens qui viennent de l'étranger, qui s'intéressent à la littérature canadienne, québécoise ou afro-canadienne, etc. Donc, c'est une dynamique qui va de l'avant. Et on le remarque aussi bien ici à Gatineau.
Oui. Vous savez, il y a tellement de sujets que j'aimerais aborder avec vous parce que ça bouillonne en ce moment aux États-Unis, au Québec, dans nos universités. On est en train de remettre en cause, pour ne pas dire carrément bannir, la culture noire aux États-Unis. Vous savez, avec le gouverneur Ron DeSantis en Floride, vous êtes sans doute au courant de ce qui se passe. Et vous savez, quand il se passe un mouvement pareil aux États-Unis, tranquillement, ça arrive aussi chez nous. Et on voit déjà des politiciens qui commencent à remettre en cause l'enseignement de l'histoire des Noirs au Canada. Vous qui êtes passionné de l'histoire, vous nous faites rêver un peu, vous réveillez en nous finalement cette histoire cachée du Canada parce que les gens méconnaissent encore la contribution des Noirs dans ce beau pays qu'est le Canada. Qu'en pensez-vous? Comment voyez-vous l'évolution justement de tout ce qui est en train de se passer dans nos universités, dans certains États aux États-Unis?
Mais pour ce qui concerne le Canada d'abord, je pense qu'il y a une vraie demande sur le besoin de connaître l'histoire des minorités, donc notamment de la minorité afro-canadienne, comme je l'ai expliqué la dernière fois, qui a une histoire longue de 400 ans, une des quatre communautés qui peut revendiquer 400 ans, mais dont l'histoire n'est pas très connue, n'est pas enseignée. Je pense qu'enseigner cette histoire, la connaître par les Afro-Canadiens et par les non-Afro-Canadiens, contribue aussi à mieux connaître notre pays, à le faire ce qu'on veut qu'il soit, c'est-à-dire un pays de diversité, de multiculturalisme, un pays inclusif. Donc l'histoire aussi, c'est à ça que ça sert, à changer un peu les mentalités. Et nous avons besoin de décoloniser un peu l'éducation, puisque nous continuons avec une forme qui est un peu ici... D'une histoire qui donne plus de valeur aux Canadiens d'origine européenne, d'ascendance européenne, mais il y a d'autres aussi minorités qui sont là, qui ont leurs histoires et qui de plus en plus sont présents au Canada et on les voit dans les écoles et ce serait bien que ces histoires-là soient connues, soient enseignées. Et donc, ce qui m'a poussé à écrire aussi l'histoire des Amazones d'Aimée, les grandes dames afro, canadienne, je pars de 1725 à 1982. Très souvent, que ce soit les Afro-Canadiennes ou pas, l'histoire des femmes est très absente dans les grands livres d'histoire. Et moi, je pense que ce serait bien aussi d'intégrer cette histoire-là dans le grand livre d'histoire canadienne pour aussi montrer que les femmes étaient là, elles ont marqué l'histoire. Et moi, j'ai eu le besoin d'écrire ce livre-là parce qu'on me posait beaucoup ces questions. Est-ce que les femmes étaient présentes dans l'histoire des Afro-Canadiens dont je racontais? Donc, voilà, j'ai fait des recherches et puis j'ai trouvé 15 grandes dames sur une longue période de près de 300 ans de l'histoire canadienne. Donc, j'ai retracé leurs histoires à travers les archives, à travers des journaux de l'époque, à travers des entrevues, mais aussi des livres d'histoire des Afro-Canadiens. Donc, voilà, c'est ça. Et c'est un livre, je pense, qui est important, qui rentre aussi dans la célébration de tout ce que l'on fait, le mois de l'histoire des Noirs, la journée du 8 mars, la diversité, l'immigration, l'intégration, l'inclusivité. Donc, c'est des livres qui parlent à beaucoup de gens qui s'intéressent à ces questions-là.
Amazones des Neiges, ces grandes dames afro-descendantes qui ont marqué l'histoire du Canada, disponible sur Amazon.ca. D'ailleurs, tous les renseignements, les liens sont sur notre site. On parle beaucoup de vous à notre émission, vous savez, depuis le début du mois de février. La semaine dernière, nous avons eu le bonheur de partager aux éditeurs un entretien très bien réussi que vous avez donné il y a quelque temps sur TV5 Monde. Vous vous souvenez, il y a un an, deux ans de cela, je pense. Et donc, c'est important. Vous êtes d'origine sénégalaise au Canada depuis quelques années, un atterrissage assez difficile sur le plan professionnel. Et aujourd'hui, certains voient en vous une perle rare car grâce à vos recherches, à vos livres, on découvre l'autre facette des Noirs au Canada. Pourquoi cette passion et pourquoi cet intérêt et pourquoi c'est important pour vous de mettre du temps, parce que ça demande du temps, hein, faire des recherches et puis il faut bien vérifier les sources. Donc, comment expliquer aux auditeurs qui nous écoutent d'où vous vient cette passion sur l'histoire, vous en tant que d'origine sénégalaise en plus, comment vous vous intéressez aujourd'hui à cette histoire canadienne?
Alors, cette passion, elle vient simplement, elle est naturelle, c'est le résultat de mon parcours. Moi, comme vous l'avez rappelé, je suis originaire du Sénégal. C'est là où j'ai commencé mes études élémentaires, secondaires, mais même mes deux, trois premières années d'université. Ensuite, je suis allé faire mes études en France. J'ai continué mes études en histoire et en sciences politiques, mais en histoire, je suis allé jusqu'en doctorat. Et j'ai travaillé sur la question des militaires ouest-africains, donc qui ont été dans les armées coloniales françaises. Pendant la période coloniale. Je travaille beaucoup sur le cas de Madagascar, vous avez cité mon livre. Et après ma thèse, donc, quand j'ai décidé de venir vivre au Canada, alors j'ai essayé de voir, faire une comparaison entre l'Empire colonial français et l'Empire colonial britannique. Donc, est-ce que ces militaires que je voyais dans l'Empire colonial français, leur utilisation, les politiques de recrutement, est-ce que c'était la même chose que je pouvais voir dans le Canada, qui était une colonie, puis un dominion de la Grande-Bretagne. Donc, c'était là l'intérêt, en fait. Au début de mes recherches, c'était plus une histoire militaire. Mais le plus que je faisais des recherches sur l'histoire du Canada, je découvrais d'autres choses. Je découvrais notamment l'esclavage qui a existé au Canada sur une période de 205 années. J'ai découvert de grandes personnalités afro-canadiennes. Je découvre aussi qu'il y a eu des vagues d'immigration sur l'étendue du territoire, de Terre-Neuve, pratiquement jusqu'à Colombie-Britannique. Franchement, c'était pas le Canada que je connaissais donc avant de venir, même pendant mes premières années. Donc, c'est ça qui m'a poussé. Et puis, j'ai vu aussi qu'il y a un besoin réel de connaître cette histoire, notamment pour la communauté, mais aussi pour tous les Canadiens qui veulent apprendre davantage sur cette histoire-là. Et il serait vraiment bien que ces histoires soient présentes dans nos curricula scolaires, dans nos programmes, dans les écoles. Et c'est ça aussi la meilleure façon de créer une société beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste, beaucoup plus inclusive, et de combattre tout ce qui est lié au racisme, discrimination, les rejets. Parce que l'histoire occupe une place centrale dans le façonnement d'un citoyen, d'un individu, pour un pays ou pour une société. Donc c'est ça qui m'a poussé à continuer mes investigations. Et je sais que c'est un terrain très fertile, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et quand j'ai commencé aussi à faire les recherches sur les grandes dames afro-canadiennes, j'ai découvert des grandes personnalités qui ne sont pas connues. Donc j'ai voulu les mettre en lumière également. Voilà.
Alors, vous avez écrit plusieurs livres et même un livre pour enfants sous forme de bandes dessinées illustrées. Vous avez dit, je cite, « L'histoire des Noirs, c'est d'abord l'histoire du Canada. » Malheureusement, avec la montée de l'extrême droite, cher professeur, aux États-Unis, au Canada, comme je vous l'ai dit tantôt, nos ministères de l'éducation partout au pays ne sont pas très friands ces jours-ci pour refléter l'histoire des Noirs dans les cursus ou les livres d'histoire. D'ailleurs, cette année, plusieurs universités en Ontario, au Canada, ont préféré garder profil bas, ont célébré l'histoire des Noirs très timidement, de peur de soulever des polémiques ou des controverses, surtout depuis certains événements à l'Université d'Ottawa, McGill, à Montréal. Et notre émission reçoit régulièrement des témoignages des parents qui disent que leurs jeunes reçoivent souvent des menaces, des messages haineux de leurs amis, des étudiants. En deux mots, y a-t-il vraiment une place pour la vraie histoire des Noirs dans nos écoles, dans nos universités, pour les enseignants qui nous écoutent? Ils sont nombreux, croyez-moi. Quel message aimeriez-vous faire passer?
Il y a de la place si on réalise que dans notre pays, le Canada, les institutions sont très en retard par rapport à l'évolution de la population, donc à la démographie. Quand vous regardez les grandes villes canadiennes, Toronto, Montréal, Ottawa et tout, vous voyez un Canada très divers, très multiculturel, des gens qui viennent de partout. Mais quand vous regardez les institutions en place et les personnes qui les occupent, c'est généralement un Canada euro-canadien, par exemple. Vous voyez? Donc ça, c'est un travail à faire. Et ce travail-là, nous, en tant qu'historiens, nous avons notre rôle à dire, nous avons notre mot à dire. Moi, je parle de cette histoire parce qu'elle est là, c'est une histoire longue de 400 ans. Et ce n'est pas en rien. Je pense que toutes les autres communautés qui sont là, c'est seulement les Afro-Canadiens qui peuvent revendiquer 400 ans de présence au Canada avec les Britanniques, les Français et aussi les pauvres autochtones qui sont là avant tout le monde. Donc ça, c'est très important. Maintenant, comme j'ai dit, l'éducation, c'est ça qu'il faut changer la mentalité. C'est ça qui peut changer la société. Donc ici, aujourd'hui, c'est la décolonisation des mentalités, la décolonisation de l'éducation est un sujet très, très important. Il faut qu'on y va. On a besoin de ça. Sinon, le racisme dont vous parlez, les discriminations, toutes ces questions de haine, de rejet ne pourront pas être réglées. C'est l'éducation, une vraie éducation, de la connaissance de l'autre, l'acceptation de l'autre, c'est ça qui va aider. Et le plus tôt possible sera le mieux. Hein? Donc moi, j'aimerais bien qu'un jour, au lieu de célébrer chaque année le mois d'histoire des Noirs, que ces histoires-là soient enseignées tout simplement dans les écoles, comme toutes les autres histoires du pays. Mm-hmm. Et c'est ça qui va régler le problème. Et oui. Il y en a d'autres solutions également, mais cette solution-là, elle est fondamentale.
Et là, je vais vous lancer une question, peut-être un peu piège, et je sais qu'on va m'envoyer... Heureusement, nous sommes à la radio et non pas en public. Est-ce que... Il y a un problème dans ces célébrations de l'histoire des Noirs, parce que pour moi, je trouve, où sont les Blancs quand on fait tous ces événements pour les Noirs dans le monde, dans les célébrations de l'histoire des Noirs? Il n'y a que des Noirs, avec des Noirs et pour les Noirs. Il y a quelques rares exceptions où on voit des Blancs. Quel message faire passer pour qu'il y ait vraiment une grande célébration incluant tout le monde, afin que les Blancs aussi s'y intéressent et se sentent concernés par le mois de l'histoire des Noirs?
Ben, c'est un travail tout simplement de vulgarisation du message de communication. Y a des associations qui s'intéressent, il y a des écoles qui s'intéressent. Bon, c'est pas une question de blanc et de noir, hein, c'est finalement une question de système. Les gens qui sont conscients de l'importance, qu'ils soient blancs ou pas blancs, ils célèbrent. Moi, je suis invité dans les écoles par des directrices qui sont des blanches. Je suis invité dans les universités par des profs blancs. Je fais des éducations. J'étais à la ville de Montréal. Mm-hmm. Le public était majoritairement blanc. Donc, ça dépend de la prise de conscience et de l'importance. Ouais. C'est ce qui réalise que notre société est vraiment multiculturelle, qu'il y a besoin d'inclure toutes les autres sociétés. Ils sont plus faciles à comprendre, mais les autres aussi sont peut-être ont besoin de plus, comment on appelle ça? De conscientisation. Voilà, c'est ça. Maintenant, il y a beaucoup aussi d'événements qui se passent dans notre pays. Et certains vont plus célébrer les événements qui concernent leur société, parce que c'est cela qui les parle.
Oui.
Mais moi, je pense que dans toutes les célébrations qui doivent avoir lieu, tout le monde doit s'impliquer. Oui. Quand arrive la fête des Franco-Ontariens, que ce soit seulement une affaire de Franco-Ontariens d'origine française ou québécoise, que ce soit tout le monde qui parle français, que quand arrive aux célébrations des peuples autochtones, aussi que les autres communautés s'y mêlent, apportent leur contribution, vont aller écouter, comprendre. Donc, c'est ça aussi le piège pour la diversité, c'est que chaque communauté a tendance à aller plus de son côté, ne pas
Exactement.
De solidarité sur les autres. Mais ici au Canada, je remarque quand même qu'il y en a qui ont pris vraiment conscience de cela. En tout cas, moi, si je me fie aux invitations que je fais, les conférences que je fais, et le public qui est présent, je pense que les gens aussi qui achètent mes livres, il y a beaucoup, beaucoup de Canadiens, donc vous dites blanc, mais qui achètent mes livres, qui s'intéressent à l'histoire. Je pense que c'est simplement une prise de conscience et c'est une affaire de système, mais ce n'est pas une affaire de blanc et de noir pour cette histoire-là.
Mais...
Maintenant, les montées des extrémismes, des nationalismes, bon, ça, c'est des discours très souvent politisés. Il y en a qui trouvent leur électorat dans ces discours-là, mais il faut aussi trouver des stratégies pour les contrecarrer, tout simplement.
Je rappelle aux gens que vous enseignez à l'école des sciences de l'éducation et au département de sciences politiques à l'université Laurentienne, Sudbury, et vous enseignez l'histoire de l'Afrique à Nipissing University à North Bay en Ontario. Il fait très froid dans ces endroits-là, n'est-ce pas? Amadou Ba, historien chargé de cours à l'université de Nipissing et Sudbury, auteur de Amazon des neiges, ces grandes dames afro-descendantes qui ont marqué l'histoire du Canada 1725 à 1982, que je vous recommande personnellement, madame, monsieur, disponible sur amazon.ca. Vous retrouverez tous les détails sur notre site web popourichaud.com. Professeur Amadou Ba, vous êtes en direct au Salon du Livre de l'Outaouais. C'était tout un honneur de vous recevoir, la clôture de notre émission. Vous faites partie de cette grande famille canadienne. Vous faites honneur à la communauté noire. Vous faites honneur aux Canadiens en général. Vous êtes un modèle pour nos jeunes. Merci, merci mille fois. Merci de tout cœur et que la force soit avec vous. On vous revoit très prochainement. Bon mois de l'histoire des Noirs.
C'est moi qui vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez à moi, mes recherches et tout ça. Et vous faites aussi un très, très bon travail. Donc, je dois rejoindre juste mon panel parce qu'il y a des gens qui m'attendent pour le Salon du Livre de l'Outaouais. Et merci, bonne célébration. Et ça a été un très grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin.
Au revoir.
Bonne journée.
Merci, au revoir. Et oui, madame, monsieur, voilà un excellent entretien avec docteur Amadouba. D'ailleurs, cet entretien, tous les entretiens seront disponibles sur notre site popourishow.com jusqu'à la fin de l'année, pourquoi pas. Et nous avons beaucoup d'autres invités qui nous attendent encore, encore et encore jusqu'à la fin de cette émission. Ça va chauffer en mois de mars. La francophonie, en fait, vous invite à célébrer la diversité francophone de Toronto avec le groupe mythique des Antilles, la compagnie créole, le 28 mars prochain. Nous avons des paires de billets pour vous, madame, monsieur. Allez sur le site de Francophonie, en fait, ou encore sur notre site pour avoir tous les renseignements. Et puis, cinéfranco.com. Et Marceline, à qui nous disons bien le bonjour, nous offre des perles rares du cinéma français francophone en février et en mars. Et allez sur le site cinéfranco.com. On fera un spécial dans le cadre de la journée internationale des femmes, mais aussi le mois de la francophonie avec des films de cinéfranco, madame, monsieur, à ne pas rater. Et puis merci mille fois à Senaya. Je vous rappelle que nous allons recevoir plusieurs autres invités, entre autres Annick Chalifour de l'Express de Toronto, mais aussi Gaëtan Nerlande, Gaëtan. Voilà, sera des nôtres. Et une célébration avec la compagnie Théâtre à Créole à ne pas rater, qui démarre aujourd'hui pendant tout un mois, madame, monsieur. Donc, avant la fin de l'émission, c'est le petit cadeau qu'on vous réserve, la belle surprise qu'on vous réserve. Popourri Show, édition spéciale dans le cadre des festivités, dans le cadre de notre émission de clôture. Et puis, ah oui, nous aurons Mama Fété. Comment ai-je oublié? Mais oui. Maman Fété de Sophie Franc, directrice générale, auteur, sera des nôtres, madame, monsieur. Mais tout de suite, on en a assez. Le Flo Franco, un jeune franco-ontarien d'origine haïtienne que j'aime bien, qui vit dans la région d'Ottawa et qui milite à travers ses chansons. On en a assez. CUT-FM.
Est-ce que ça va changer ou ça restera ici? C'est Dieu et le danger, trop de cris dans la nuit, blanc et noir ennemi. Blessé et enragé, regard intense engagé. Nos jeunes sont dans les rues, petits enfants dans un rempli d'une réalité. Nouvelle à la télé, controverse habituelle. Une jeunesse menottée, notre fierté est devenue rebelle. Un jugement erroné, une personne condamnée, fut se emprisonnée. Année après année, yo, on en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez. Regarde, il se passe de quoi? On le sent dans l'atmosphère. Ne me demande pas pourquoi on déteste la loi, son visage est par terre. On crie à l'aide, l'amour n'est plus le remède. La honte est rendue le maître en dehors de mon être, c'est la haine qui succède. Action et conséquence, une famille qui porte le deuil. Petit pays en souffrance, mon et l'âme sur ma feuille. C'est rendu moi contre toi, toi contre lui, lui contre elle, nous contre vous, c'est la guerre. Une haine qui coûte cher, et on en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez. Violence erronée, fierté menottée, futur emprisonné, yo, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez. Est-ce que ça va changer ou ça restera ainsi? C'est Dieu et le danger, trop de cris dans la nuit, blanc et noir ennemi. Blessé et enragé, regard intense engagé. Nos jeunes sont dans les rues, petits enfants dans du rempli de
Canada for many reasons. No matter where they're from or why they're here, a warm Canadian welcome can make a difference. There are many ways to make a newcomer feel at home. A friendly greeting, an introduction to neighbors, or a simple offer of help getting settled into your community. Visit canada.ca/warm-welcome to find out how. Message brought to you by the Government of Canada.
From the roots up, CIUT 89.5 FM. Toronto.
La radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Adair. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89,5 FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le département d'études langagières campus de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions Prises de Parole, EducNation Consulting Inc., Noir Epsi, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
Eh oui, Ciné Franco, 25 ans, et ça se fête tout au long de l'année, en ligne ou en salle. Restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco. Allez sur le site de cinéfranco.com et découvrez la diversité des cultures francophones. Ciné Franco, le plus important festival international de films francophones à Toronto depuis 1997. Soyez-y. Bonne fête à Ciné Franco. Ciao, ciao, ciao.
Quoi de neuf? Les cafés du Créfaux. En partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à des cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFOU, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon. et tournent autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant. Et oui, laissez-vous tenter, préparez-vous, madame, monsieur, pour un mois de mars, un mois de la francophonie, au rythme du groupe mythique La Compagnie Créole, le 28 mars 2023, à l'auditorium Saint-Frère André, à 19h30, un concert unique, un événement de francophonie en fête. Tirage au sort, des billets, retrouvez les détails sur popourichaud.com. Et merci à Francophonie en fête et tous nos partenaires qui nous soutiennent. Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Au Pourichaud, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc. Mois de février, mois de l'histoire des Noirs. Popourichaud, CUT 89,5 FM. Au cœur de l'histoire. Il n'y a pas de futur sans présent. Et pas de présent sans passé. Eh oui, émission de clôture du mois de l'histoire des Noirs. Et nous avons plusieurs autres invités qui nous attendent. Au bout du fil, à venir, Nerland Gaëtan, directrice de la compagnie Théâtre Créole et Festive Théâtre Créole, qui nous présentera la 5e édition du Festival Théâtre à Communauté des Noirs, qui se tiendra du 26 février au 26 mars à Montréal. Plus d'une vingtaine d'activités culturelles au rendez-vous. Et l'invité d'honneur cette année, Jenny Laguerre, actrice, conteuse, danseuse, enseignante d'origine haïtienne, qu'on connaît très bien ici à cette antenne. Elle œuvre aussi dans la région d'Ottawa et Montréal. Plus d'infos sur popourichaud.com. Et puis nous recevrons Annick Chalifour, journaliste au Journal Express de Toronto, une passionnée d'Haïti. Et à ne pas manquer la belle programmation de Ciné Franco dans le cadre du mois de la francophonie. À ne pas rater, oui, en dernière heure, nous apprenons que nous serons en ondes, en toute exclusivité, et oui, à l'antenne, le dimanche 5 mars prochain, pour 3 heures, dans le cadre du lancement du mois de la francophonie. Donc, dimanche prochain, 5 mars, de 10h à 13h, à ne pas rater. Et dans un instant, notre prochain invité, Fete Kimbiopi, directrice générale de Solidarité des femmes immigrantes francophones de Niagara, Sophie Franc, notre partenaire. Un organisme qui a reçu de la grande visite tout récemment du gouvernement fédéral. Ancien membre du conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français, auteur de Niota, le secret de la plume aux éditions L'Harmattan. Et justement, hier, c'était la soirée de clôture de Festive Eben, dans le cadre de la clôture justement du mois de l'histoire des Noirs dans la région de Niagara-Welland. Quel bilan et quel avenir pour les Noirs francophones de l'Ontario? On en parle dans un instant avec Mama Fété.
Bonjour.
Et oui, nous avons le plaisir, madame, monsieur, d'accueillir, si vous le permettez, Mama Fété pour les intimes. Et je pense que je suis dans ce cadre-là, dans ce groupe. Est-ce qu'on peut vous appeler Mama Fété?
Oui, absolument. Bonjour.
Comment allez-vous maintenant? Vous êtes chroniqueuse de la vie. Dans la vie est un carnaval sur TV5 Monde. J'ai reçu des messages de partout au monde. Me dit, mais ton invitée là, elle a parlé d'un festival de piment. J'ai dit, quoi? Un festival de piment?
C'est vrai.
C'était superbe. Comment s'est passé votre mois de l'histoire des Noirs et surtout les célébrations d'hier soir?
Oh mon Dieu, c'était fantastique. Mmh. Personnellement, je suis vraiment heureuse, satisfaite, mais en même temps, mon Dieu, ouf que ce soit terminé, parce que ça a été intense, d'une intensité incroyable, parce que c'était le retour en présentiel après deux festivals en ligne, et on a toujours voulu, avec ce festival, aller au-delà un peu des clichés, de ce qu'on a l'habitude de faire, de ce que on se dit, à quoi on s'attend toujours par rapport au mois de l'histoire des Noirs. Donc cette année-ci, nous avons mis la barre très haut, on a commencé par 10 jours d'exposition, sur le Mali, Spirit of Mali. C'était une très, très belle exposition. Et toutes les personnes qui ont visité cette exposition, en sont sorties absolument, certains bouleversés, d'autres très émus, parce qu'il y avait vraiment l'esprit du Mali dans la salle et ça s'est passé dans la très belle salle d'exposition du First Ontario Performing Arts Center de Sainte-Catherine, où vraiment on est dans un cadre exceptionnel, magnifique pour une exposition. Tout est là, les lumières, les objets d'art sont mis en valeur. C'était des grandes tapisseries grandeur nature, si je peux dire. Et il y avait des instruments de musique, bien entendu, des masques, il y avait des tissus. C'était quand même assez exceptionnel. Pour cet endroit, c'est la première fois, je pense, qu'il recevait une telle exposition, et selon les commentaires que nous avons reçus, effectivement, ça a fait un changement. Et pour nous, c'est ce que nous voulons, en fait, c'est aller au-delà, comme je disais tantôt, présenter aux gens d'autres facettes de notre culture pour nous faire connaître, pour que nous-mêmes nous puissions nous reconnaître aussi, parce que beaucoup d'immigrants, des personnes issues de la diversité, notamment celles qui sont nées ici au Canada ou qui sont arrivées très petites, ne connaissent pas leur culture. Donc c'est pour présenter ce visage autre que les défilés de mode, la gastronomie, et puis la musique qu'on a l'habitude de présenter. Et hier, c'était effectivement, on a clôturé le festival avec une soirée de spectacle avec 3 groupes totalement différents. Le premier groupe, c'était un groupe de jeunes, enfin des Cubains, au CAN. C'était un groupe à découvrir aussi, ils font de la musique évidemment cubaine. C'était une découverte pour le Niagara, en tout cas, pour Wellen. Oui. Parce que je les ai, moi, rencontrés pour la première fois. C'était toujours au First Ontario Performing Arts Center, pour la première fois. Et j'ai été tellement conquise que je les ai invités. Et hier, c'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel.
Et pour les gens qui nous écoutent à l'étranger, il faut bien rappeler aux gens, Mama Fété, que nous sommes en plein hiver en Ontario, au Canada. Donc il y a de la neige, il faut s'y prendre autrement que d'aller fêter en été, n'est-ce pas?
Ah oui, absolument, tout à fait, malgré le verglas qui était là, la neige au-dessus du verglas. Oui. Les gens sont venus quand même nombreux pour s'amuser, justement, pour s'éclater.
Quand on quand on est à la fête, on oublie l'hiver, on oublie le froid, parce qu'il y a de la bonne ambiance, la bonne humeur, et puis
exactement,
c'est chaleureux, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça, tout était là, tous les ingrédients étaient là, la musique était là, une bonne cuisine qui était là aussi, les gens décidaient à se détendre, à se divertir, et l'ambiance était vraiment au top. Alors le deuxième groupe, c'était une haïtienne, Oudney Pierre, pour celles qui la connaissent, pour ceux qui peuvent la connaître, et elle nous a emmenés évidemment aux Antilles avec son rythme compas, Et finalement, on a terminé dans la chaleur africaine avec le ndombolo africain, congolais notamment. C'était exceptionnel. Les gens ont vraiment aimé et nous nous sommes arrangés pour donner aux nouveaux arrivants qui sont très nombreux. Vous savez qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Certains qui sont venus par le Québec.
On parle que de ça. On parle de votre région. Et il y a même des Haïtiens de Québec qui ont passé par le Québec, mais le Québec les a refoulés dans votre région parce que il y a une politique d'immigration différente de l'Ontario en ce moment. Alors, ces familles haïtiennes qui ne parlent pas l'anglais est allée sur les ondes. On a entendu Radio-Canada, par exemple. Et puis, il y a ces hôtels qui accueillent ces immigrants pour quelque temps. Mais combien de temps ça va durer? On ne peut pas rester à l'hôtel pendant tout le temps.
Ils sont inconfortables. En fait, c'est un petit cercle vicieux parce qu'ils sont dans les hôtels, ils n'ont pas de permis de travail, les maisons coûtent, les logements coûtent excessivement cher en ce moment, donc le montant qu'on leur alloue pour quand ils stoppent, ils trouvent un logement, ne leur permet pas de vivre. Donc si on pouvait accélérer le côté administratif, leur donner des permis de travail, ce serait beaucoup plus intéressant pour eux parce qu'à ce moment ils pourraient quitter l'hôtel, aller s'installer dans un logement, peu importe lequel, travailler et couvrir en fait les frais de logement. Mais là, tout le monde est mal à l'aise, que ce soit ceux qui se plaignent au niveau, n'est-ce pas, des officiels, à cause du tourisme, etc., qui risquent de connaître, je sais pas, un frein. Et eux-mêmes, les immigrants, les nouveaux arrivants, il faut penser surtout à eux aussi. Ils ne demandent pas mieux que de sortir des hôtels. Avec les enfants, dans un hôtel, c'est pas confortable. Ils veulent sortir, mais... Je crois que le problème est un cercle vicieux. Au niveau de l'administration, si ça pouvait aller plus rapidement, qu'on puisse leur donner leur carte grise ou leur feuille papier gris avec le permis de conduire, le permis de travail, ils partiraient très rapidement. Ils se plaignent. Nous sommes en contact avec eux puisqu'on essaie de les encadrer aussi autant que faire se peut à notre niveau. C'est ça notre rôle aussi. Et donc, ils aimeraient sortir des hôtels.
Alors, je sais que vous avez toute une équipe autour de vous. Vous avez célébré les 15 ans de Sophie Franc l'année dernière et les célébrations vont se poursuivre sans doute cette année. Vous avez reçu même de la grande visite du gouvernement fédéral récemment. Alors, parlez-nous un petit peu justement quel rôle joue Sophie Franc dans cette nouvelle dynamique des nouveaux arrivants, des immigrants, mais aussi il y a beaucoup de gens qui demandent l'asile politique ou encore de l'asile, tout simplement, en Ontario. Et d'ailleurs, pourquoi le Niagara, Welland, pourquoi pas le centre-ville de Toronto, Toronto Centre? C'est la question que les gens me posent souvent.
Oui, exactement. D'après ce qui nous est revenu, en fait, le choix du Niagara a été dicté par le fait que, bon, d'abord, ce sont des francophones. Le Niagara a un petit bassin de francophones aussi qui est assez intéressant et important, toute proportion gardée par rapport à la région. Mais surtout, le Niagara, c'est la région qui reçoit finalement beaucoup de monde, ou beaucoup d'immigrants, mais où les nouveaux arrivants ne restent pas. Donc, ça a été une décision politique qui a été prise de d'orienter les nouveaux arrivants vers le Niagara. Sauf qu'il n'y a pas assez, les structures ne sont pas là pour ces nouveaux arrivants. Nous, au niveau de Sophie Franc, nous intervenons tout simplement pour les aider. Notre rôle dans ce cadre-là, c'est vraiment l'intégration sociale, c'est-à-dire les aider une fois qu'ils ont trouvé un logement. Nous avions de temps en temps des programmes qui nous permettent d'assister les immigrants à faible revenu. Et nous avons orienté tout ce programme vers les nouveaux arrivants, c'est-à-dire de temps en temps trouver des cartes nourriture, qui leur permettent d'aller faire de l'épicerie. Mais bon, ça ne représente pas grand-chose. Ça les aide, évidemment. Ils sont très contents. Ils sont au niveau où $20 ou $30, $50, c'est une fortune par rapport à ce qu'ils reçoivent. Alors donc, quand nous avons des programmes pour cela, nous le faisons. Mais en ce moment aussi, l'afflux est tellement important, dont le flux d'immigrants est tellement important qu'on ne peut pas gérer tout ça en même temps. Donc, c'est vraiment une question qui relèvent des autorités, qui doivent trouver des solutions et éventuellement nous appuyer, nous, en termes de renforcement de nos capacités, de manière à ce que nous puissions les encadrer, parce qu'après tout, nous avons cet avantage des immigrants comme eux, nous avons cet avantage d'avoir souvent la même culture et de converser, de communiquer avec eux, et surtout cette confiance qu'ils nous font quand on leur parle, etc. Donc, nous sommes une voie aussi quelque part obligée de passage pour aider les autorités à contenir, mais à installer, si vous voulez, convenablement ces immigrants et à les aider à faire leur premier pas dans la région. Mais actuellement, je peux dire que la région n'est pas en mesure d'absorber le flux d'immigrants qui est en train de venir ici. Il y en a qui sont retournés d'ailleurs, soit dit en passant. Il y a ceux qui sont venus du Québec, principalement les Haïtiens qui étaient au Québec parce qu'ils avaient des membres de famille ou des relations, des amis là-bas au Québec, qui ont été emmenés au Niagara dans des bus, tout à fait à un moment donné. Ils sont repartis au Québec. Il semble même que le Québec ait renvoyé des autobus pour les récupérer et repartir au Québec. Ils sont un peu rejetés comme des balles de ping-pong d'une province à l'autre.
De New York au Canada, Québec, Niagara Falls et puis Welland, Toronto. C'est incroyable, incroyable. Je rappelle aux gens que les derniers chiffres nous montrent qu'en 2021, 1,5 million de personnes au Canada ont déclaré être noires, soit plus de 4 personnes noires sur 10 sont nées au Canada. Malheureusement, des études nous indiquent que les Noirs sont toujours les grands perdants au sein des services de santé, services sociaux, le monde de l'emploi. Les stéréotypes perdurent encore. Il y a encore beaucoup de mythes et l'exclusion est hélas monnaie courante pour beaucoup de Noirs, surtout au sein de la francophonie ontarienne, québécoise et canadienne. Nous recevons beaucoup de témoignages. Les gens ne veulent pas parler en public, mais après 35 ans, les gens, c'est comme une grande famille maintenant. Donc, il nous envoie des témoignages vraiment bouleversants. Vous, en tant qu'organisme communautaire, vous faites un travail de terrain incroyablement important et vous avez des partenaires clés comme les conseils scolaires, vous avez l'université de la région et d'autres partenaires clés pour tisser des liens, mais aussi monter des projets. On le voit bien et vous avez cette confiance aussi chez ces partenaires. Qu'avez-vous à dire à des gens qui nous écoutent et qui hésitent encore à travailler avec des organismes communautaires qui œuvrent auprès des immigrants et surtout auprès des Noirs?
Je vais vous étonner, je n'ai pas grand-chose à leur dire. J'ai beaucoup plus à dire aux Noirs eux-mêmes. Mmh. Et je saisis cette occasion pour dire que nous sommes un grand problème. Je me rends compte après toutes ces années, et surtout ces dernières années où on a beaucoup travaillé sur des programmes le racisme, l'exclusion, etc. et tout ça, que le problème doit être réglé avant tout au niveau de nos communautés noires. Nous devons absolument nous asseoir et commencer à revoir beaucoup de questions, revoir ce que nous avons considéré comme des valeurs, revoir un tout petit peu, nous remettre en question. Je pense que le problème est là. Sinon, ce n'est pas normal, Eric, vous savez, moi je n'encourage pas le victimaire, la victimisation. Je pense qu'il y a des problèmes que nous devons assurer. Il y a des remises en question que nous devons faire, avoir le courage de faire, de manière à pouvoir nous redresser et nous adresser avec les autres autrement que ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que la condescendance, le mépris, parfois caché, camouflé, bon, on le voit au quotidien, mais on essaie. En fait, c'est un peu comme si on nageait à contre-courant. On est en train de fournir beaucoup d'énergie, mais c'est difficile, en fait, de remonter. Il faut arrêter à un moment donné, s'arrêter et puis commencer à s'auto-questionner pour voir quelles sont les meilleures stratégies. C'est même pas une question de stratégie, parce que ça nous concerne nous-mêmes. Le problème se trouve en nous et chez nous, et nous devons le régler.
Mais...
quand nous l'aurons réglé à ce moment-là, je pense que change-toi et le monde autour de toi changera.
Mais vous savez, vous avez parfaitement raison, parce que moi, j'ai été témoin de l'évolution de cette communauté depuis plus de 40 ans et j'en ai vu des associations qui apparaissent, qui disparaissent, et puis la bataille des présidents, présidentes. Vous avez parfaitement raison et je pense qu'il faut à un moment donné qu'on se dise les quatre vérités entre nous. Et puis qu'on arrive à trouver des solutions durables. Mais aussi, il faut que les gens mettent de côté leur orgueil. Il y a trop d'orgueil. Tout le monde veut devenir président.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que je parle. C'est de ça qu'il s'agit exactement. C'est l'ego qui est tellement puissant que vous pouvez créer même un organisme pour le bien commun, mais cet organisme n'ira jamais loin. Parce que vous allez voir qu'il y a tellement de terreurs de clocher à l'intérieur qu'en fait, on passe à côté de sa mission, alors que c'est quelque chose qui devait être un porte-flambeau, et tout le monde le sait. Le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte que les gens nous regardent et le savent. Et c'est sur ça qu'ils sont en train de, justement, de surfer pour prendre avantage sur nous.
Ouais.
Pendant que nous sommes en train de nous croquer le nez, pour ne pas dire utiliser un autre verbe. Non, non. Le problème est nous, et nous devons avoir ce courage de nous asseoir. Moi, j'espère trouver des partenaires suffisamment raisonnables pour accepter de créer un forum ou un petit comité pour commencer, où nous allons nous dire les quatre vérités. Oui. Mais c'est incroyable. Il suffit même qu'il y ait quatre personnes sur une table, les disputes commencent.
Oui. Fetengira Batware Kimbiopi, Diasa, thérapeute et l'homme léopard, c'est peut-être la réponse de notre discussion, n'est-ce pas? Quel avenir pour les Noirs francophones au Canada? Ce sera aussi une des thématiques dans le cadre du mois de la francophonie. Lancement dimanche prochain dès 10h, pas 11h, mais 10h. Vous savez, on a des gens, des bienfaiteurs, bienfaitrices, Chamama Fété, qui nous disent, vous voulez pas avoir une heure supplémentaire? Voilà, on vous donne temps. Je trouve ça incroyable. Vous savez qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment en Allemagne, Wiltrud, qui nous envoient des dollars.
Oh,
de l'euro, euro, s'il vous plaît.
Mmh. C'est même ça... mieux pour le moment. Je trouve ça bien quand même. Par rapport au dollar, ça va bien.
Mais pourquoi je dis ça? Parce que les gens s'y attachent et ils prennent au sérieux le travail qu'on fait, mais aussi tous les invités de marque qu'on reçoit. Nous avons avant vous reçu professeur, docteur Amadouba, que vous connaissez très bien.
Oui.
Voilà un homme extraordinaire qui se penche sur l'histoire canadienne, sur l'histoire des Noirs, leur contribution dans ce Canada, ce beau pays qu'on aime. Mais il est encore méconnu, malheureusement, encore, mais là...
Justement, c'est quelqu'un que j'appuie beaucoup et que je recommande toujours, parce qu'il devrait être partout où on parle de l'histoire des Noirs. Souvenez-vous, l'année passée, on avait parlé d'un fonds qui avait été débloqué par le ministère, je pense, de l'Éducation, si je ne m'abuse, pour créer justement une sorte de curriculum pour enseigner. Je crois que c'était dans les écoles, l'histoire des Noirs. En tout cas, il était question, on en a parlé l'année passée, c'est vite passé comme ça dans les informations. Et on avait cité le nom d'un organisme qui devait participer à la mise en place de ce projet. Eh bien, je suis allé chercher cet organisme, je l'ai trouvé très difficilement. C'est un organisme, effectivement, qui se dit africain ou quelque chose. Il y a un mot là qui rappelle africain ou noir. Mais c'était dirigé par des Canadiens qui étaient tous sauf des Noirs. Et moi, j'avais dit que Amadouba, le professeur Amadouba, est une personne, une très bonne, excellente référence qui ne devait jamais manquer sur toutes les tables où il est question de discussion pour faire avancer l'histoire des Noirs canadiens au Canada.
Merci beaucoup. On me dit qu'il n'y a pas de... Le temps passe. Il y a d'autres personnes qui nous attendent. Mon cher technicien me rappelle que vous trouvez des piments forts en Ontario. Vous avez une adresse en deux mots, deux secondes.
Non, j'ai mon adresse à moi, effectivement. Je fais du piment et j'envoie du piment là où on commande, mais je le fais vraiment à titre... comment dirais-je, privé, et en même temps, j'ai beaucoup de commandes en ce moment, donc ils peuvent me contacter par mon numéro de téléphone, mais j'ai déjà mon carnet de commandes qui a une longue liste d'attente.
Oh, wow,
il faut
wow,
aussi
wow,
attendre
wow.
Du piment rouge.
Il y a de l'avenir, il y a de l'avenir pour vous, voilà. N'est-ce pas? Il y a de l'avenir, alors. Eh oui, ça me fait plaisir, madame, monsieur, d'accueillir. d'accueillir, fêter Kim Biopi, directrice de Solidarité des Femmes.
Je profite, si vous me permettez une seconde, pour remercier tous nos commanditaires qui nous soutiennent, qui permettent à Sophie Franc non seulement d'avancer, de continuer à offrir des services pour les immigrants, les nouveaux arrivants. Et je vous remercie aussi pour soutenir, n'est-ce pas, notre action avec la promotion que vous faites quotidiennement ou en tout cas chaque semaine pour notre organisme. Merci beaucoup.
Et oui, je vous invite, madame, monsieur, à visiter le beau site de Sophie Franc, site web sophiefranc.org. Sophiefranc.org, vous retrouverez tous les liens sur notre site popourishow.com. Mille merci, Chamama Fété. Encore, merci, que la force soit avec vous. Merci. Et bon mois de l'histoire des Noirs, et à très bientôt.
À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Bonjour, bonjour, je viens vous inviter. Laissez tout tomber.
Eh oui, madame, monsieur, nous sommes là presque à la fin de ce mois de l'histoire des Noirs. Et cela me fait plaisir. J'espère que cette émission vous réchauffe le cœur. Eh oui, il y en a qui sont au soleil, par exemple. Il y a des messages qu'on reçoit de Guadeloupe, de Martinique, de Port-au-Prince. Eh, vous, les chanceux, et de Port-Louis, île Maurice. Heureusement que le cyclone Freddy ne vous a pas tellement affecté, mais malheureusement, nos amis de Madagascar, les Malgaches en ont pris pour le mal. Et oui, ça a fait beaucoup de dégâts avec 11 morts. Et donc, Francophonie en fait vous invite à célébrer justement la diversité de la francophonie avec le groupe mythique des Antilles, la Compagnie Créole, le 25 décembre, le 25 mars, je dis bien que le 28 mars, le 28 mars 2023 à l'Auditorium Toronto West. Vous savez, nous ne sommes pas habitués à être à l'antenne. Où se trouve cet endroit? Alors, le 28 mars 2023, l'Auditorium Toronto West, Saint-Frère-André à 19h30. Deux paires de billets disponibles pour les auditeurs de la radio. Je dis bien deux paires de billets disponibles. Il faut nous écrire à popourri@cut.fm et surtout si vous êtes membre de la radio, alors bingo. Et dans un instant, nous allons accueillir Annick Chaifour, une amoureuse d'Haïti, les Noirs et le monde créole. En fait, pour tout un mois, on en parle avec Nerland Gaëtan, directrice de la compagnie Théâtre Créole, vers 12h45 environ. Accueillons celle qui ne cesse de nous émerveiller par ses articles sur les communautés noires et surtout la communauté haïtienne de la région de Toronto, madame, monsieur, madame Chaifour, pour la première fois d'ailleurs. Allez. Spéciale émission de clôture du mois de l'histoire des Noirs. Eh oui, dimanche prochain, lancement du mois de la francophonie des 10h, 3 heures d'émission non-stop. Donc, Nous allons maintenant rendre hommage au peuple haïtien. Haïti, première république noire, libre du monde. Un pays méconnu de nombreux Canadiens. Pour de nombreux Canadiens, en effet, ils connaissent très mal Haïti. Pays souvent relégué à l'arrière-plan de la mémoire pendant des décennies et revenu sur le devant de la scène à la faveur de l'immense émotion qui a suivi, vous vous souvenez, le tremblement de terre de Port-au-Prince le 12 janvier 2010 et les crises sociales et politiques sans fin depuis plusieurs années. Pour nous aider à apprécier le patrimoine culturel de ce pays, j'ai le plaisir d'accueillir pour vous, dans quelques minutes, une journaliste de l'Express de Toronto et grande alliée et passionnée d'Haïti, Madame Annick Chalifour. Bonjour Madame Chalifour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Oui, alors cela me fait plaisir, vous savez. On choisit comme ça des perles rares pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs et vous êtes parmi ces personnes qui depuis très longtemps voulaient absolument, absolument parler un peu de Haïti parce que malheureusement on connaît Haïti ces jours-ci dans des circonstances peu difficiles. Mais vous, vous êtes une passionnée d'Haïti et vous avez traité plusieurs sujets des immigrants, de communautés immigrantes dans vos articles dans l'Express de Toronto. Parlez-nous un peu. D'où vous est venu cet amour, cette passion pour Haïti?
Ben, ça fait très longtemps. Ça fait très, très, très longtemps. En fait, j'ai rencontré Haïti, ça fait une quarantaine d'années, à travers la cinématographie de mon père, qui était passionné de cinéma, de faire du cinéma dans les Antilles. Alors, on parle des années 60, 70, où il a visité, il a filmé partout dans les Antilles. Nommez-moi une île, il est allé. Donc, il est allé en Haïti. Et à ce moment-là, c'était la perle des Antilles. Hein? On appelait Haïti la perle des Antilles. Alors, en 1972, pour continuer sur cette histoire, j'ai rencontré une copine à l'université. J'étais étudiante à l'Université Laval à l'époque, qui, elle, dont les parents étaient d'origine haïtienne. Elle m'a invitée pour un séjour à Port-au-Prince en 1972. C'était superbe. Port-au-Prince était absolument magnifique. Alors, ça a été ma première rencontre physique, si vous voulez, avec Haïti. Après, la vie m'a réorientée ailleurs. Et de fil en aiguille, le tremblement de terre que vous avez mentionné, en fait, ça m'a tellement, tellement touché que je voulais absolument retourner en Haïti. Et heureusement pour moi, ma vie m'a donné l'opportunité, à travers mon journalisme avec l'Express, je publie dans l'Express depuis 15 ans, donc mon journalisme m'a permis, en fait, de retourner en Haïti en 2012. Et depuis ce temps, j'écris et je publie à propos d'Haïti, donc ça fait presque une dizaine d'années. Couvrant des reportages du nord au sud-est d'Haïti et aussi d'appuyer évidemment la communauté de la diaspora haïtienne à Toronto qui est très vibrante et très active. Donc voilà, je me suis intéressée particulièrement au patrimoine culturel d'Haïti. Je me suis dit, bon, oui, il y a eu un tremblement de terre épouvantable, mais il y a plusieurs facettes à une situation. Il y a les deux côtés de la médaille. Il y a la terreur, l'horreur qu'on a connue avec le tremblement de terre. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire les Haïtiens qui ont du caractère, qui sont des activistes et qui croient dans le patrimoine d'Haïti comme faisant partie d'un plan de paix, si vous voulez. Et moi, je le crois avec eux parce que je les ai rencontrés, elles et eux, sur le terrain. Ce sont des entrepreneurs qui croient dans la paix en Haïti et qui, en fait, choisissent le patrimoine d'Haïti pour justement démontrer ses capacités. Alors, mon histoire, en fait, entre 2000, je dirais plus précisément entre 2015 et 2018, retrace la vie, l'espoir, les efforts aussi d'entrepreneurs qui œuvrent pour justement promouvoir le patrimoine haïtien. Alors, je parle du patrimoine artistique, gastronomique, historique, littéraire, etc. C'est extrêmement riche. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai été extrêmement soignée par la vie. Alors, à partir de, 2012, mais bon, plus, je dirais, vers 2015 jusqu'à 2018, là, vraiment, j'ai parcouru le pays. Donc, à commencer par Cap-Haïtien, évidemment. Là, j'ai visité les communes de Dondon, dans le nord, Sainte-Suzanne, Grande-Rivière-du-Nord, où les gens sont extrêmement actifs en faveur de justement promouvoir un patrimoine environnemental, historique, parce qu'on sait que l'histoire d'Haïti est extrêmement marquée partout dans le pays, mais précisément dans le Nord, des grands héros, si vous voulez, comme vous le savez, de la victoire haïtienne, de l'indépendance d'Haïti, sont originaires du Nord. Donc voilà, excusez-moi, par la suite, j'ai poursuivi, j'ai traversé l'Artibonite et je suis allée dans la commune de Marchand-des-Salines où on retrouve justement les forteresses historiques qui ont permis aux Haïtiens d'obtenir la victoire, hein, enfin d'obtenir l'indépendance, comme vous le savez, en 1804. Et je suis descendue vers le sud, vers Port-au-Prince, où j'ai rencontré des personnes extraordinaires, fabuleuses, qui font partie du patrimoine que j'appelle du patrimoine humain d'Haïti. Je peux vous en mentionner quelques-uns, vous les connaissez probablement. Il y a premièrement, bon, entre autres, Hérold Josué, qui est un prêtre vaudou, qui est éthologue, qui est en fait directeur du Bureau national d'ethnologie à Port-au-Prince, qui est un lieu absolument extraordinaire, une fenêtre sur l'histoire, la culture d'Haïti, en passant par la religion vaudou, comme on le sait, qui est une religion officielle en Haïti. Par la suite, j'ai rencontré à la même époque Daniel Marcellin, qui est un dramaturge reconnu, un journaliste radio, un conseiller pédagogique ici aussi, pardon, qui agit comme activiste culturel. Également Paula Péan, que vous connaissez sûrement aussi, qui est directrice fondatrice du Centre culturel, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Pied-Poudre, à Port-au-Prince, qui est un centre culturel d'apprentissage et de promotion de la culture haïtienne. Et on continue avec une autre merveilleuse chorégraphe, danseuse, activiste que j'ai également rencontrée à Port-au-Prince, Linda Isabelle François. Et par la suite aussi, Patrice Douget, qui est un photographe humaniste. Je suis allée aussi visiter le parc de Martissant, hein, qui est en banlieue de Port-au-Prince, dirigé et fondé par Michel Duvivier, qui est un parc extraordinaire et qui donne une opportunité aux jeunes et aux populations plus défavorisées dans Martissant de reconnaître la valeur de justement de leur patrimoine environnemental. Évidemment, moi, j'y suis allée à une époque où c'était relativement calme, où c'était possible de faire ces multiples voyages à travers le pays. Aujourd'hui, ce serait évidemment très difficile. J'avais prévu, en fait, mon dernier séjour date de novembre 2018, où justement je suis allée à Jacmel, qui a tenu son premier salon littéraire international. C'était superbe, sur la rue du Commerce, rue historique, donc à Jacmel, en bord de mer. Et j'ai rencontré plusieurs écrivains haïtiens et d'ailleurs aussi. Et voilà, donc par la suite, je voulais y retourner, mais bon, la pandémie, combinée avec...
Et d'ailleurs, vous avez donné une conférence chez nos amis, la Société d'Histoire de
Toronto. Oui, où j'ai mentionné 2022. Tout ça. J'aurais tellement à dire, je veux continuer parce que j'ai des noms que je veux mentionner de gens qui sont extrêmement impliqués en Haïti. Abner Septembre, qui est un sociologue, un environnementaliste, un entrepreneur, qui agit à Value. Je ne sais pas si vous connaissez Value, qui est une commune en montagne vers à peu près, je dirais, à 2 heures à l'ouest de Port-au-Prince. Il y a aussi Rudy Desroses, que je veux mentionner, qui est coordinateur du réseau national de promoteurs en tourisme solidaire. Et c'est ça qui m'a beaucoup interpellée, tout ce tourisme solidaire, ce tourisme culturel, à travers les gens que j'ai rencontrés, leurs entreprises, leur implication. Notamment, Rudy Desroses a mis sur pied la route du café, dans la commune de Font-Jean-Noël, dans l'arrière-pays, dans le sud-est, que j'ai parcouru justement en 2017, avec justement l'association des paysans.
Oui. Alors, je rappelle aux gens qui nous écoutent, qui aimeraient avoir des points de référence sur la communauté haïtienne, qui est une communauté très importante à Montréal, à Gatineau, à Ottawa, et de plus en plus à Toronto. Il y a même des associations haïtiennes dans la grande région de Toronto. Je rappelle aux gens, l'immigration haïtienne au Québec et au Canada, c'est une histoire d'amour vacillante, comme m'a dit une haïtienne qui nous écoute en ce moment. Le Canada et Haïti entretiennent officiellement des relations diplomatiques autonomes depuis 1954 et sont unis par de profonds liens d'amitié et de fraternité. Au fil des ans, leurs relations ont été renforcées par la proximité géographique, une langue commune, la croissance d'une importante communauté haïtienne au Canada. On retrouve de plus en plus de personnes d'origine haïtienne, comme je l'ai dit, à Montréal, la province de Québec, mais de plus en plus à Toronto, à Ottawa. Et selon le dernier recensement de Statistique Canada, on démontre plus de 200 000 Haïtiens et Haïtiennes au Canada. Moi, personnellement, ce chiffre, je ne sais pas, Mme Chalifour, je pense qu'il y en a plus que 200 000 Haïtiens au Canada, diriez-vous?
Mais disons que c'est à la hausse. Ce serait difficile pour moi de donner un chiffre exact, mais effectivement, oui. La communauté haïtienne à Toronto est croissante et justement regroupe diverses associations, plusieurs organismes qui appuient les Haïtiens ici, mais aussi en Haïti. Je voudrais mentionner l'association Haïti Futur Canada, qui a été fondée par Gabriel Osson, que vous connaissez peut-être, un écrivain d'origine haïtienne basé à Toronto. Donc, l'organisme est basé à Toronto, mais œuvre en collaboration avec Haïti Futur, qui est une association internationale et qui apporte un appui socio-économique à Haïti. Il y a aussi
la fondation Sylvie Lindor, que nous
connaissons. Oui, voilà, la fondation Sylvie Lindor.
Annick Lesfontaines, qui nous écoute peut-être, à PDG.
Ben, j'espère.
On salue.
Alors, bonjour, Annick. Alors, Annick est extrêmement actif. Il appuie notamment les jeunes d'origine haïtienne qui s'installent à Toronto. Oui. Leur donne plusieurs conseils, plusieurs avis, leur permet de faire du réseautage, les aide aussi en termes de s'impliquer dans l'entrepreneuriat, justement, comme nouveau jeune entrepreneur issu de la diversité, un travail extraordinaire. Et je voudrais aussi mentionner l'organisme Perspective en traite humanitaire, qui a été fondé par le docteur Éric Pierre.
Que nous connaissons très bien, qui est partenaire,
qui est
de la radio.
Ben voilà, qui est le consul honoraire, comme vous savez, d'Haïti à Toronto, qui, à travers son organisme, appuie l'éducation.
Le temps passe, malheureusement, me fait des grands signes. Il y a une autre personne qui nous attend à Montréal. Je rappelle aux gens rapidement, Haïti, un pays qui rayonne sur la culture mondiale. On pense notamment aux peintres, aux chanteurs ou encore des écrivains originaires de la Perle des Antilles, comme vous avez dit. On pense ici à Dany Laferrière, l'académicien qui est très connu à Montréal et en Europe. 12 millions d'habitants baignés par l'océan Atlantique et la mer des Antilles fait souvent l'actualité pour, malheureusement, de bien tristes raisons. Pour terminer, j'aimerais rappeler aux auditeurs que Haïti est un pays qui, un jour, a eu une personnalité hors du commun, Toussaint Louverture, 1743 à 1803, héros de la révolution haïtienne, père et martyr de l'indépendance, ancien esclave lui-même, défenseur de l'abolition, héros national haïtien qui a eu des rapports profonds, complexes, ambigus avec la France. Pensez-vous que les Canadiens en général, en deux mots, connaissent assez bien l'histoire d'Haïti, Madame Chalifour?
Ma tendance serait de dire plus ou moins. Plus ou moins, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'en tout cas à Toronto, on se retrouve dans une société hautement multiculturelle. Donc, il y a divers intérêts. Il y a divers intérêts culturels. On veut faire connaître diverses communautés culturelles, dont la communauté haïtienne. Mais effectivement, je pense qu'on connaît peu. Et c'est justement un de mes objectifs à travers ma chronique, qui existe depuis une dizaine d'années, pour justement faire connaître le patrimoine culturel historique dont vous avez parlé.
Oui.
Parce que, en fait, mon message pour terminer, c'est que je crois fermement, à travers ce que j'ai vu, les gens que j'ai rencontrés, que le patrimoine d'Haïti fait partie de son plan de paix. Que, en fait, le patrimoine d'Haïti est garant de son développement socio-économique. Et je crois aussi dans le potentiel des Haïtiens et des Haïtiennes, là-bas comme ici, pour justement entreprendre et faire connaître le patrimoine d'Haïti, parce que c'est tout pays va croître à travers son patrimoine. Il faut l'exploiter, il faut le partager. Il faut d'abord s'y associer, ressentir un sentiment d'appartenance. Et moi, je l'ai vu, je l'ai ressenti en Haïti.
J'espère que les professeurs, les enseignants qui sont à l'écoute vont faire appel à vos services. Je trouve que c'est une bonne conférence pour les étudiants, pour les jeunes, mais aussi pour le public en général. Annick Chalifour, chroniqueuse et journaliste à l'Express de Toronto, l'express.ca, depuis plusieurs années. Elle a aussi des reportages réalisés en Haïti sur le tourisme solidaire, appui à l'économie locale et durable, à plus de 20 ans d'œuvres humanitaires avec une formation de juriste. Alors ça, c'est très intéressant. On en parlera peut-être un jour. Merci en pile, chère Madame Chalifour.
C'est moi qui vous remercie. Merci en pile. Bonne journée.
Et que la force soit avec vous.
Merci.
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes. 35 nationalités. 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur France24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Potpourri Show et prisedeparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur potpourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. Et la fête se poursuit, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Le mois de clôture du mois de l'histoire des Noirs. Et bien sûr, avec le groupe mythique, la compagnie créole, deux paires de billets pour les auditeurs, les membres de la radio. Ils seront à Toronto le 28 mars prochain. À Toronto, je dis bien, à Toronto. Et pour terminer rapidement cette émission spéciale en beauté, madame, monsieur, nous avons le plaisir de vous présenter un personnage noir de la belle province du Québec, mère de famille. Elle a été candidate à la mairie de la ville de Saint-Léonard, directrice du Festi-Théâtre à Créole, membre du comité citoyen de la table ronde de Saint-Léonard. Une femme très impliquée, aussi bien dans la sphère culturelle, communautaire et politique. Elle vient nous présenter la 5e édition du Fêté comme noir qui se déroule du 26, donc aujourd'hui, 26 février au 26 mars, et plus d'une vingtaine d'activités culturelles au rendez-vous. Et chaque dimanche, nous aurons un petit topo résultat de notre partenariat avec la compagnie Théâtre Créole à Montréal. Bonjour Néerlande Gaëtan, qui est la directrice. Bonjour, vous êtes là?
Bonjour, bonjour et merci de nous recevoir. Merci encore d'accepter ce partenariat avec nous pour permettre aux auditeurs et aux auditrices de savoir ce qui se passe dans la belle province pour la cause noire.
Oui, et d'ailleurs, ils sont nombreux, les Montréalais, les Québécois, les gens de Gatineau qui nous écoutent chaque dimanche religieusement. Alors, je sais qu'ils sont nombreux. Alors, merci d'être des nôtres. Et je veux rappeler aux gens, nous sommes dans une journée hivernale. Je suis convaincu que vous allez nous réchauffer le cœur avec votre programmation fort intéressante. Faites-nous brosser un tableau un peu, donnez-nous un aperçu, un survol de votre belle programmation pour le mois qui s'en vient.
Alors, je vous dirais d'avance que le festival se déroule sur plusieurs lieux. C'est un festival qui a ce qu'on appelle une partie regard ailleurs. Durant le festival, il y a une semaine qui se déroule à l'extérieur du Canada. Question de faire voir à l'extérieur les talents dans le domaine du théâtre à des gens. Alors cette année, c'est en Haïti que ça se passe. Donc actuellement, le directeur artistique de la compagnie, Ralph Civil, est en Haïti pour lancer le festival à Jacmel. Mmh. Un endroit assez chaleureux. Je suis sûre que beaucoup de personnes qui écoutent sont de Jacmel d'ailleurs. Donc le festival est lancé officiellement aujourd'hui à partir de 18h avec des spectacles qui vont se dérouler tout au long de la semaine à Jacmel. Et ça recommence ici aussi le demain. Nous avons une activité de conte à Montréal pour les familles parce que c'est la semaine de relâche à Montréal. Donc les jeunes vont s'amuser. Nous allons continuer le 4 mars avec Absolument Femmes. Ça, c'est une journée essentiellement réservée aux femmes qui vont être sur scène, mais elles invitent toute la famille à venir les rejoindre. Il y aura des exposantes, il va y avoir un panel où les femmes vont parler de leur travail, les femmes artistes et artisanes vont parler de leur mission en tant que femmes, mais aussi en tant qu'artistes. Et on continue avec d'autres activités, des spectacles, comme on va avoir Franck Sylvestre, cet Antillais qui nous présente le conte Solibo. Nous allons avoir des invités venus directement de la France qui nous amènent Marielle le 11 mars à la salle Piccolo. On conclut, je vous le dis, il faut que vous soyez là. Le groupe Zecle fête ses 40 ans d'existence et devinez où ça se passe. Ça se passe à Montréal, ça se passe à la salle Vraimonde. C'est 80$ encore aujourd'hui. Je dis encore aujourd'hui parce que c'est 80$ à l'avance, donc vous devez vous dépêcher.
Oui, et d'ailleurs, il y a un angle, les affiches sont sur notre site web. Je trouve que c'est un groupe formidable à découvrir. Et comment les gens réagissent en général? Et quand je dis les gens, pas seulement la communauté haïtienne, la communauté noire, mais moi, ce qui m'intéresse dans le mois de l'histoire des Noirs, c'est aussi d'essayer de ramener tous ces gens qui sont sceptiques, la communauté blanche en général, les franco-ontariens, les Québécois de souche. Quelle est leur réaction face à toutes vos activités depuis que vous avez commencé il y a quelque temps?
Alors, je vous dirais que pendant la pandémie, on découvrait tranquillement qu'on avait un autre public. Notre visée dans les 10 prochaines années à la compagnie Théâtre Créole, c'est d'aller rejoindre le public qui est autre que de la communauté noire. Parce que quand on reste en silo puis on se plaint ensemble, on parle de nous, on connaît déjà notre talent, right? Mais on a besoin que d'autres personnes regardent ce qu'on fait et disent « Hey, ils sont bons, pourquoi on leur laisse pas la place? Pourquoi on les considère pas tous comme des humains comme nous autres? » Ben oui, ils sont des humains comme vous autres, ils font du théâtre comme vous autres, ils sont bons, on est bons. On est juste bons, mais les gens n'arrivent pas à le savoir. Donc notre but, c'est de rejoindre ces gens. Et ça commence tranquillement.
Oui.
Je vous dirais pas qu'on a une 50aine sur 200 personnes en salle qui sont autres de la communauté noire, mais ça commence tranquillement. C'est un ami qui amène un collègue.
Voilà.
Nous avons eu la pièce 12e étage.
Et les médias, Radio-Canada et les autres grands médias officiels.
C'est très difficile de rejoindre ces médias-là. Parce que effectivement, tant qu'on n'a pas rejoint des médias qui sont écoutés par la majorité, il va être très difficile de rejoindre la majorité.
Alors voilà, le message est passé parce qu'ils sont nombreux à nous écouter. Vous savez, de Radio-Canada, ils ont fait des émissions sur nous et avec nous l'année dernière. Alors peut-être ils vont... Le temps passe. Chaque semaine, nous aurons un petit topo de vous. Merci mille fois. 5e édition du Fêté comme Noir qui se déroule à partir d'aujourd'hui jusqu'au 26 mars, madame, monsieur, et l'invité d'honneur est notre belle et amie, grande amie, Jeannie Laguerre, qu'on connaît très bien ici, actrice, conteuse, danseuse, enseignante d'origine haïtienne qui œuvre à Toronto, au Théâtre français de Toronto, qu'on a vu sur les planches à plusieurs reprises, mais aussi à Ottawa et Montréal. Et restez avec moi, je vais terminer l'émission, on va faire une petite improvisation, pourquoi pas, avec de la musique, s'il vous plaît, de la musique, s'il vous plaît. Voilà. C'est Naya, artiste du mois, compositrice à qui nous disons bien merci, parce que peut-être vous la connaissez, elle vient de lancer son dernier album. Il y avait aussi professeur et docteur Amadou Ba, historien chargé de cours à l'université Nipissing, université Laurentienne à Sudbury, qui nous parlait de Salon du Livre de l'Outaouais qui se termine aujourd'hui. Mama Fete Ngara Batoire, Kim Biopi, directrice générale de Solidarité des femmes immigrantes francophones du Niagara, Sophie Franc. Merci beaucoup, Mama Fété. Et puis, je vous rappelle qu'il y aura cette Annick Chalifour, qui était des nôtres, journaliste à l'Express de Toronto, qui aime beaucoup Haïti et qui a écrit beaucoup, beaucoup d'articles et a fait plusieurs présentations ici dans la région de Toronto. Merci beaucoup, Madame Chalifour. Et bien sûr, vous, Nerland Gaëtan, directrice de la compagnie Théâtre à Créole et Festi Théâtre à Créole, qui est notre nouveau partenaire. Allez sur notre site, madame, monsieur, vous allez recevoir tous les liens nécessaires pour, même si vous n'habitez pas Montréal, c'est très important de découvrir les nouveaux talents de la communauté noire et cela va vous émerveiller, j'en suis sûr. Et pourquoi pas aller faire une petite balade à Montréal pendant ce mois qui s'en vient. Merci mille fois à mon capitaine Devera qui est mon bras droit, le technicien, l'ingénieur du son. Et encore une fois, mille merci, cher ami. J'espère que vous allez être des nôtres très prochainement. Hein?
Merci à vous.
Alors, voilà, je vous rappelle, madame, monsieur, on vient de m'envoyer quelque chose. Le Salon du Livre démarre le 2 au 5 mars sous la présidence d'honneur de Guy Mignot, qui est l'ancien directeur artistique du Théâtre français de Toronto. Allez, je vous laisse avec... une voix que vous connaissez sans doute, madame, monsieur, écoutez bien, c'est un artiste très, très, très engagé. Je vous laisse découvrir. Allez, ciao, 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 Madame Gaëtan. Au revoir.
Merci, merci, au revoir.